Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Parmi toutes les expositions qui sont consacrées à l'art de vivre à la française et qui sont déclinées à l'infini dans les plus prestigieux musées et les plus beaux châteaux, en voici quelques-unes qui font rêver. D'abord, l'exposition dans le plus beau musée du monde, celui qui attire le plus de visiteurs, plus de 9 millions en 2014, 9 800 000 avec le Louvre de Lens. Avec deux dames célébrissimes, la Joconde bien sûr, dont le demi-sourire énigmatique continue de faire pâmer les foules, et la somptueuse Victoire de Samothrace, à qui l'on vient de refaire une beauté. L'exposition du Louvre concerne les salles consacrées au XVIIIe siècle, département des objets d'art. Véronique Prat l'a visitée. Dans l'enfilade des salles, on pénètre dans la pièce décorée des lambris de l'hôtel d'Angers. Harmonie de bleu, de blanc et d'or, agrémentée de scènes peintes, de jeux d'enfants dans des cadres chantournés. C'est l'une des période rooms de la nouvelle présentation des collections du mobilier et objets d'art du XVIIIe siècle du Louvre. 35 salles qui se déploient sur plus de 2000 mètres carrés du règne de Louis XIV à la veille de la Révolution. Plus de 2000 objets de l'âge d'or des arts décoratifs sont présentés, soit dans de grands buffets de somptueuses pièces d'orfèvrerie, seaux à bouteilles et salières du service Penthièvre-Orléans, ou de faïence, faïence ornée de motifs à l'ocre niellé, Rouen, vers 1720, soit dans des vitrines thématiques, série de tabatières, vers 1750-1770, toutes plus raffinées les unes que les autres. Parmi les surprises du parcours, la coupole, peinte, du salon des petits appartements du Palais Bourbon, un des plus beaux symboles de la douceur de vivre sous l'Ancien Régime. Thank you. Versailles s'exporte aussi, quelquefois de manière surprenante, pour des expositions exotiques, en tout cas lointaines. Versailles à Shanghai. Transformer le Shanghai IFC dans le centre financier de Pudong Lhuzalus International en un château royal du XVIIIe siècle, tel est le défi relevé par le jeune Michael Kremer, issu de la cinquième génération de la célèbre dynastie d'antiquaires. Parisien. Ce pionnier du goût français en Chine a répondu à l'invitation des Chinois qui ont construit un magnifique écrin au milieu des enseignes de luxe avec, en son centre, un arc de triomphe pour montrer les plus belles pièces d'ébénisterie du règne de Louis XIV à celui de Louis XVI. Mais c'est un véritable Mimi Versailles. À Venise, les expositions se succèdent à un rythme effréné. Venezia bellissima. Bertrand de Saint-Vincent a visité la Sérénissime à l'occasion de la Biennale d'art contemporain. Permesso, Madonna ! L'exaspération perce dans la voix des autochtones que des grappes de touristes bousculent sur le vaporetto qui glisse d'un côté à l'autre du Grand Canal. Le ciel est d'un bleu azur. La mer, agitée comme une enfant. L'embarcation longe le bâtiment des autorités portuaires, devant lequel est amarré le Carinthia 7, yacht géant dont la propriétaire est une milliardaire autrichienne. On l'a beaucoup vu à Cannes. On voit de tout sur les bords de la lagune. Une banderole du personnel en grève du musée Guggenheim. Une affiche SOS Dada, The World is a Mess. Une tête de loup bleu sur un balcon. Scott Fitzgerald, peut-on lire sur un sac en toile d'une américaine. Au Harris Bar, ce n'est pas encore l'heure du Bellini Champagne Pêche, qu'affectionnait tant Hemingway. Trop tôt pour la saison, prétend le serveur. Des gondoliers en t-shirt rayé transportent des touristes en bob. Venise est une suite de tableaux dont la peinture coule. Devant la station Giardini, des invités prestigieux, collectionneurs, conservateurs, artistes, descendent d'un taxi Riva avec des lenteurs de parachutistes. Ce sont les derniers instants où la biennale leur appartient avant l'ouverture au public. Les files d'attente sont encore mesurées. Les pavillons sont des antres dont les portes s'entrouvent sur un monde magique, irréel, exotique, grotesque, abracadabrantesque. Les professionnels rêvent de pêches miraculeuses. Les jeunes artis portent des boots épuisés, noirs et poussiéreuses sur des jupes courtes. Les visages sont graves. Ils cherchent à percer le message des créateurs, ces dieux sombres et ricaneurs. La délégation française reçoit en terrasse. On y est presque aussi serré que sur un Vaporetto. Serge Lavigne s'amuse de cette effervescence. « Je suis en formation accélérée », plaisante le tout nouveau président du Centre Pompidou. Il a dans son allure et son accent quelque chose d'Yves Montand. Quelqu'un donne rendez-vous ce soir à 20h23 pour la performance de Sadhan Afif. Un horaire de chemin de fer pour un train fou. L'artiste bolivienne Sonia Falcone reçoit à l'hôtel Monaco. Dans le pavillon de l'Amérique latine, cette fervente supportrice de la nature a mis à l'honneur les indigènes à travers les mots de leur langue déclamés par Miss Panama. À sa table, l'ex-Miss Latina, Sandra Murcia, s'est reconvertie dans la psychologie. Son ex-mari fut loin d'être un modèle. Il a été assassiné à Bogota. Mannequin vedette des années 1990, Karen Mulder rêve de rencontrer un homme bien. En attendant, elle suit des cours de guitare. À Venise, la beauté a toujours l'air au bord du naufrage. Puisque nous sommes dans l'art contemporain, revenons à Versailles avec Li Ufan, le roi zen pour Laetitia Sénac. Maître du vide, sculpteur d'ombre et de lumière, le grand artiste expose dans les jardins du château de Versailles l'espace d'un été. C'est une leçon d'harmonie. Li Ufan, artiste sud-coréen né en 1936, qui peut s'enorgueillir d'un musée construit par Tadao Ando sur l'île de Naoshima, a répondu oui à l'invitation de Catherine Pégard, présidente du château. Après le kitsch de Jeff Koons, le super flat de Takashi Murakami, les Valkyries de Johanna Vasconcelos, place à la contemplation, à l'instar des arbres métaphysiques et superbes de Giuseppe Pennone. Cette œuvre minimaliste qui met en relation la pierre et le métal, l'ombre et la lumière, le dur et le fragile, investira les jardins, soit 10 sculptures toutes créées in situ. Une grande arche, comme un arc-en-ciel installé devant le château, ouvrira la porte de l'espace-temps, explique Alfred Pacman, commissaire de l'exposition. Cet élément fort permettra une nouvelle vision de la perspective de le nôtre. Idem pour le bosquet de l'étoile ou l'escalier Gabriel, où les œuvres dialogueront avec le monde extérieur. Philosophe de formation, abreuvé aux écrits de Nietzsche, Heidegger ou Merleau-Ponty, théoricien du mouvement conceptuel japonais Mono-A, qui est l'école des choses des années 70, militant de la réunification de la Corée, Li Ufan travaille sur le vide. La répétition du signe, les éléments de la nature, l'effacement de l'individu. Pour évoquer sa peinture, le critique Pierre Restany notait « Peindre sur l'aile du vent signifie bien autre chose qu'une métaphore poétique. Il en va de même pour ses sculptures, l'autre moitié de son œuvre. » Pour une présentation exceptionnelle. Pour Hector Obalk, il est des fois où la politique porte ses fruits. Voici une paire de tableaux proposés en vente aux enchères par son propriétaire, qui était Éric de Rothschild, pour 160 millions d'euros. C'est trop pour le Louvre. Pas pour le Rijksmuseum d'Amsterdam. La paire risque donc de sortir de France. Le ministère de la Culture et la direction du Louvre décident de faire cause commune avec le soutien de la Banque de France pour obtenir un accord sans précédent entre la France et les Pays-Bas, stipulant que le Louvre et le Rijksmuseum posséderont les deux portraits en garde alternée, chacun des deux pays payant 80 millions d'euros. Les deux époux dont Rembrandt a fait le portrait ne seront jamais séparés, mais siégeront alternativement à Paris et à Amsterdam. D'abord 3 mois dans chaque pays, ensuite 5 années et enfin 8. L'homme, âgé de 21 ans, tend son gant en gage de fidélité à son épouse, âgée de 23 ans et enceinte de quelques mois. Ils appartiennent tous deux à la haute bourgeoisie hollandaise. Quant à la facture, elle est redoutablement habile, notamment à l'endroit des dentelles superposées, avec ce souci du détail hyper hyper réaliste que le peintre abandonnera 20 ans plus tard pour une manière plus enlevée et tout aussi virtuose. Rembrandt n'avait alors que 28 ans. Et à Venise encore, pour une ultime promenade, grâce à un numéro de Marie-France, l'hebdomadaire de 2009. Déjà, le temps vole, même à Venise. Sous une brume dorée à Venise, en novembre, on assiste à un miracle. Discret, mais épatant, on entre dans la basilique Saint-Marc sans faire la queue. On contemple donc ces merveilleuses mosaïques et dans la galerie supérieure, le spectaculaire quatuor de chevaux de bronze doré au mercure, dont, en d'autres saisons, on se contente d'admirer vite fait la copie piaffant sur la façade. Conservé à l'intérieur, l'original, l'un des plus précieux trésors de la Sérénissime, est ce qui reste d'un quadrige. C'était un char attelé, antique, volé à Constantinople en 1204, emporté en France par Napoléon, puis finalement rendu à la basilique. Si l'on se débrouille pour visiter la ville fin novembre, on assiste même à un second miracle, avec l'apparition d'un pont supplémentaire sur le Grand Canal, installé pour quelques jours à l'occasion de la fête de la Salute, le 21 novembre, célébré depuis plus de 3 siècles pour saluer la fin de l'épidémie de peste de 1630 qui tua un tiers de la population. Il relie les rives de Saint-Marc à la basilique Santa Maria della Salute, à Dorso Duro. Celle-ci croule alors sous les fleurs, les cierges et le monde. En découvrant que des plats traditionnels sont préparés pour l'occasion, on traque, dans les austériers, la castradina, soupe aux choux et aux moutons, théoriquement castrée, d'où le nom, particulièrement roborative. Et l'on scrute les vitrines gourmandes pour repérer s'il reste encore de la pâte de coin, la cotognata, offerte pour la Saint-Martin le 11 novembre. De Venise, en fin d'automne, on rapporte aussi des légumes, beaux comme des mariés, chicorées tigrées, amères ou petits artichauts violets en bouquets qui paradent sur les étals des marchés du Rialto et du Rio Terra de San Leonardo. Et on se contente d'admirer, au marché aux poissons de la Pecceria, la mort dans l'âme, car on voyage sans glacière, les premières squilles, cigales de mer blanche aux yeux rapprochés. Même si le temps se gâte, on s'en moque un peu. On suit un atelier pour tout apprendre des masques. Ce n'est pas hors de saison. Jusqu'à la chute de la République au XVIIIe siècle, les citoyens vénitiens portaient la baota dès le 5 octobre. S'il fait mauvais encore, on se réfugie dans les musées. Avec un penchant pour ceux dont le cadre donne l'idée d'une vie de palais à la vénitienne. Le Guggenheim, pour les excentricités mobilières de sa donatrice Peggy. Et le musée Fortuny, pour l'agencement feutré de ses somptueux tissus. Et si décidément le ciel boude encore, on sait où retrouver magnifiée la lumière si douce de Venise hors saison. C'est celle des tableaux du peintre Zoran Mjusik, dont on fête cette année le centenaire de la naissance. La galerie Contini expose toujours quelques-unes de ses toiles, où les quais et les canaux semblent pris à jamais dans les brumes dorées d'un éternel automne. Marie-France Guibard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel. Thank you.